Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons notre chemin dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous sommes dans le péché originel depuis un moment et finalement, je propose que nous continuions parce qu'il y a encore des articles qui sont particulièrement intéressants. Et une question qu'on peut entendre assez souvent, le baptême qui nous libère du péché originel, certaines personnes disent « mais quand même, les enfants n'ont pas péché ». Et il y a un peu cette idée de quel est ce péché, soit qui se transmet, pour certains c'est une vraie question que la transmission du péché, soit ce péché, le péché que nous aurions tous commis. Je vois dans le catéchisme les deux citations chez saint Paul. De fait, chez saint Paul, la question du péché originel, c'est là qu'elle va nous arriver en fait. Il est mis au 402, « Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam ». Saint Paul l'affirme. Donc là, je cite d'abord Romains 5, 19, la lettre aux Romains 5, 19. « Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. » Et c'est vrai qu'on a en tête une autre citation qui est un petit peu avant, Romains 5, 12, le catéchisme dans le numéro 402 la donne. « De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. » Et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Il y a cette idée que nous avons tous péché, nous avons tous reçu un péché. Comment faut-il entendre cette question au fond ?
Alors oui, le passage Romains 5, 19 que tu as cité en premier est tout à fait bienvenu, puisque cela dit finalement qu'est-ce que c'est que le péché originel ? Constituer pécheur, ça ne veut pas dire acte de péché, mais une situation pécheresse. Nous sommes, malheureusement, nous avons contracté quelque chose sans avoir commis d'acte. Nous avons contracté comme une lèpre, comme pour donner une analogie de maladie. Et nous sommes solidaires de ce que Adam, notre père, notre chef, a commis. Et donc c'est très bien dit, c'est exactement ce qu'est le péché originel qui est dit par saint Paul. La deuxième citation que tu as prise avait été traditionnellement utilisée par saint Jérôme et par le Concile de Trente pour exprimer la même chose. Et on insistait sur la finale de Romains 5, 12 pour dire « dans lequel, c'est-à-dire dans Adam, tous sont péchés ». Or, en fait, le mot grec « fo », traduit par « inko », dans lequel tous sont péchés, n'est pas la meilleure des traductions. Et il semble bien, en écoutant en particulier Cyril d'Alexandrie, qui est un excellent connaisseur du grec et qui l'a pratiqué tout du long de sa vie, que « fo » est un consécutif du fait que tous ont péché. C'est beaucoup mieux traduit, kouya, c'est une conséquence. Et donc il ne faut pas voir dans Romains 5, 12 le nœud le plus caractéristique de ce que est le péché originel. Alors que 5, 19 qui est mis avant éclaire d'une certaine manière beaucoup mieux ce qu'est le péché originel. Et là nous avons la conséquence. Et la conséquence c'est qu'à partir du moment où tout le monde a été constitué pécheur, eh bien, il finit un jour ou l'autre par pécher. Et c'est de cette constitution terrible dans laquelle nous sommes nés que le baptême prend toute sa lumière, toute sa force, c'est-à-dire nous sommes libérés de cette conséquence, de cette automatise, je dirais, du fait que nous sommes constitués pécheurs. Nous devenons fils de Dieu par adoption, nous devenons graciés, nous rentrons dans la communion avec Dieu. Bien sûr, nous avons encore ce que l'on appelle le fomes peccati, c'est-à-dire le fond pécamineux qui vient du péché, qui n'est pas péché, qui conduit au péché pour la lutte spirituelle. Et c'est très pénible à vivre, c'est la concupiscence, comme on l'appelle, et on est obligé on subit celle-ci, mais on a la grâce suffisante pour ne pas pécher. si nous acceptons cette grâce. Donc c'est une grande libération par rapport à l'état antérieur, l'état où on est sans cesse, je dirais, rivé à cette constitution pécheresse qui fait qu'un jour ou l'autre, on pêche, si vous voulez. Et ça, nous sommes, par le baptême, nous échappons à ce fatalisme, en quelque sorte.
C'est ça, et la phrase Romains 5, 18, j'en ai cité deux de Romains, mais celle-ci, elle conclut, si on
elle
peut
conclut,
dire,
oui.
Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation. Donc c'est cette constitution pécheur qui nous entraîne, oui, à un moment ou à un autre au péché. De même, l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Ou comme le dit le catéchisme, le synthétise bien, à l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut dans le Christ.
Oui, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on ne comprend bien finalement le péché originel et qui nous fait dépendre de la faute d'Adam que dans la lumière du Christ par lequel nous découvrons en même temps notre libération. Et c'est vrai que c'est un dogme difficile, parce que pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils découvrent en eux? Eh bien, de temps en temps, des capacités très fortes, où ils se croient des surhommes, et puis d'autres moments, ils voient qu'ils plongent dans le péché, dans des choses qui sont mauvaises, et tout d'un coup, ils se disent, est-ce que cette part que je découvre bonne en moi, je ne pourrais pas un peu la fortifier et venir à bout de cette part que je sens mauvaise, alors qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il faut passer par Jésus-Christ, c'est l'unique sauveur. Et cette finale 5-18 le dit admirablement bien. L'œuvre de justice, c'est celle que nous procure Jésus dans une justification qui donne la vie. Si je ne passe pas par lui, je risque de dévier vers une sorte d'excès qui va me faire surestimer mes forces à pouvoir combattre cette concupiscence. D'autant plus que cette concupiscence est marquée dans le numéro 405 du catéchisme de l'Église catholique comme étant propre à chacun. Et le fait qu'elle soit propre à chacun, comme dit très bien le Concile de Trente, eh bien montre qu'il y a comme des propensions qui sont différentes chez l'un de chez l'autre. Quand on dit la concupiscence, c'est aussi bien le concupiscible et l'irascible qui sont tordus. Et on verra chez l'un une facilité plus grande à se mettre en colère, un autre un appétit sexuel dévié, chez un autre une gloutonnerie incroyable, etc. Et on se dira, tous les hommes sont différents, c'est vrai, mais à l'origine, c'est le même péché originel, c'est sa conséquence qui fait qu'il y a cette concupiscence qui demeure en chacun, qui fait que chacun est porté à des déviances, à des tentations plus fortes dans des domaines que dans d'autres, et cela fait que c'est la constitution de la pâte humaine. Et hélas, certains veulent s'affranchir de cette condition, soit par le haut, soit par le bas. Par le haut, en croyant qu'ils vont être tout à coup maîtres de leur nature en prenant des figures très ascétiques comme faisaient les stoïciens avant la venue du Christ, ou soit dans le laxisme où finalement on conclut à quoi bon résister puisque de toutes les façons on saute. Et dans les deux cas, on s'éloigne de la possibilité que le Christ nous donne, le salut, c'est-à-dire s'accrocher à Jésus et découvrir que c'est lui seul qui peut nous maintenir au-dessus des flots et nous éviter l'excès d'orgueil qui est cette espèce de suffisance de vouloir y aller par ses propres forces et qui donnera les grands courants du pélagianisme plus tard, du jansénisme, tous ces courants qui ont essayé de pousser la nature humaine jusque dans ses extrémités, et puis un courant plus laxiste, plus dans le fond pessimiste, et on pense à des courants bien classiques dans la réformation protestante, dans lequel finalement Martin Luther écrit à son ami Mélenchon « Pêche beaucoup et croit davantage ». C'est-à-dire, vas-y gaiement. De toute façon, on n'y peut rien. Donc, laissons notre volonté s'en aller vers le péché. De toute façon, on n'y peut rien.
De ce qu'on dit là sur ce qu'est ce péché originel, ça me fait penser à cette phrase qu'on dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. De toute façon, c'est bien de ça dont il s'agit.
Et c'est tout à fait ça. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On le voit partout dans les beaux idéaux. Souvent, on nous interroge, par exemple, sur les croisades. Ben, c'est vrai que les croisades, au début, c'était une très, très belle chose. Il fallait remettre le tombeau du Christ qui avait été détruit en 1009 par Al-Hakim, le sultan d'Égypte, qui l'avait détruit. 3000 pèlerins avaient été égorgés à Lal. Les chrétiens ont dit on ne peut pas laisser ça d'un point de vue politique. Donc il y a eu un courant politique qui s'est affirmé pour dire il faut. Ça a pris beaucoup de temps, puisque c'est seulement en 1099, donc 90 ans après ces désastres, que les armées croisées sont arrivées sur le terrain. Mais après ça, il y a eu, bien sûr, inévitablement, de l'hommerie. C'est-à-dire, on a voulu se faire ces petits royaumes, on a pris les gens pour les servir, etc. Donc il y a eu toutes des tractations, des jalousies entre croisés, etc. Ils se sont battus entre eux, ils ont introduit des musulmans dans leurs armées. Ça a été une catastrophe. Mais ça a duré 200 ans. Est-ce que, de nos jours, on est encore capable de dresser des idéaux aussi incroyables et tenir 200 ans? C'est une question que l'on peut poser à notre civilisation qui est marquée par le matérialisme.
Merci, frère Édouard.